Bonjour à toutes, bonjour Annie.
Bonjour Émilie.
Vous qui nous rejoignez, je vous souhaite la bienvenue et je suis ravie de retrouver ceux qui parmi vous ont accepté mon invitation à philosopher lancée ici même sur Radio G il y a 2 semaines. Aujourd'hui pour ce deuxième croque philo, on va s'intéresser à la voix. Ses sons, ses sens et à tout ce que la voix a à nous dire. C'est vrai qu'ici dans le studio, et pour vous qui nous écoutez en voiture, à la maison ou au travail, on est bien placé pour aborder ce sujet bien calé là de chaque côté de la radio. À la radio, la voix est le fil qui nous relie aux annonces, aux chansons, à l'information, à l'actualité. Mais la voix, c'est aussi pour chacun le fil de nos souvenirs, remontant parfois très loin à l'échelle de nos existences individuelles ou collectives, le souvenir d'une voix familière, d'un être cher, disparu depuis longtemps parfois, ou celle, plus socialement partagée, d'une journaliste, d'un acteur, d'un chanteur, qui n'est parfois pas de notre génération, mais que les archives médiatiques ont su implanter dans notre mémoire collective et que l'on reconnaît au premier mot. Puis il y a les voix qu'on aime particulièrement, qui nous portent, nous enveloppent, nous séduisent, ou au contraire, celles qui nous hérissent. Annie, toi, tu as des voix que tu aimes ou d'autres qui t'insupportent ?
Oui, en tout cas, je suis très attentive quand j'écoute la radio, par exemple, à comment les personnes posent leur voix. Je pense qu'il y a des voix, oui, que...
Oui, ça vient peut-être même une déformation professionnelle.
Oui,
c'est un autre...
Mais oui, il y a quand même des façons de parler des fois qui m'insupportent et d'autres qui me plaisent beaucoup, qui me touchent.
On y est souvent sensible et de façon générale, rarement en tout cas, une voix nous laisse indifférents. Et si nous sommes sensibles au grain de la voix, ou à la façon dont on pose la voix, c'est parce que la voix, c'est du corps. Et la matérialité de la voix a une force évocatrice qui s'impose à nos sens et qui peut, c'est selon, nous glacer, nous séduire ou faire autorité sur nous. Même dans une langue qui nous est étrangère, une voix s'inscrit durablement dans la réalité sensible, alors que les ondes semblent éphémères. D'ailleurs, la force sensible de la voix est nommée grâce à de nombreuses expressions qu'on retrouve dans la langue française. Nous évoquons une voix chargée d'émotions, une voix blanche, froide ou chaude. Aussi, au-delà des mots, nous savons entendre un sourire dans la voix de notre interlocuteur, même quand nous ne le voyons pas. C'est le cas à la radio, bien sûr, mais aussi dans nos conversations téléphoniques ou aujourd'hui dans nos heures masquées. Même si justement, aujourd'hui, il est vrai, nous remarquons que la place de l'image et de la vidéo gagne beaucoup de terrain sur la voix nue, même à la radio, où les émissions sont de plus en plus souvent filmées. Les vidéos en ligne aussi sont quasiment toutes sous-titrées désormais et sont ainsi plus lues qu'écoutées. L'idée étant de pouvoir avoir accès à l'image en tout lieu, en toutes circonstances, et on sacrifie souvent le son, particulièrement la voix. Je ne sais pas, Annie, si tu regardes parfois les vidéos sans le son.
Alors, ça arrive. J'évite. Après, c'est aussi intéressant parce que ça les rend encore plus accessibles. Mais oui, des fois, c'est... Et ça peut être étonnant de le son qu'on se projette. Et ensuite, tu mets le son et tu regardes la vidéo et c'est complètement différent, ouais.
Non, réécoute, ouais. Moi, je trouve qu'il y a même une certaine frustration parfois à ne pas pouvoir entendre le son et quand même avoir envie de regarder la vidéo. Et quand on la retrouve effectivement après, on peut être surpris. À l'heure où certains dénoncent le port du masque qui étoufferait justement nos voix, au sens propre comme au figuré, demandons-nous ce que la voix dit et fait de nous. Nous venons d'évoquer sa force sensible. Elle est en cela aussi un marqueur de temps, quand elle est vieillissante ou qu'elle nous vient d'une autre époque. Et elle est aussi socio-culturellement marquée par les langues et les habitudes qui la façonnent. Quand on vit seul ou qu'on est nombreux au foyer, quand on travaille dehors, on n'utilise pas sa voix de la même manière. Les habitudes, elle la façonne, car elle est un instrument, nous l'utilisons à des fins variées, mais c'est sa matérialité qui est l'outil même du travail des comédiens, des chanteurs, des journalistes, des thérapeutes, des soignants. On la chauffe, on la pose, mais elle n'est pas seulement du son, elle est aussi du sens. De quoi la voix est-elle le sens? Qu'est-ce qui lui donne du sens? Pour Jacques Derrida, en 1967, Dans grammatologie, la voix, c'est de la présence au discours. On reconnaît l'existence de la voix parce qu'elle est porteuse d'un discours. Et en quelque sorte, c'est le discours qui nous fait penser l'existence de la voix, qui lui donne du corps. Plus précisément encore, ce qui fait pour Derrida la voix essentiellement hors du discours est renvoyé souvent à de l'inarticulé, mais souvent compris comme non porteuse de sens. Pourtant, originellement, il rappelle que la voix est porteuse du sens même de l'être, de l'histoire de l'homme et de la pensée. La voix de la raison, du discours rationnel, appelé le logos en philosophie, n'est pas la seule voix articulée. Elle n'est pas la seule dont on puisse saisir du sens. Le risque, ce serait justement de ne retenir que la simple articulation qui différencierait en elle-même, dans nos représentations, l'homme et l'animal, et de réduire la voix à une parole qui signe seulement une pensée. Petite remarque d'ailleurs là-dessus, sur le lien entre les sons articulés et la nature humaine, ce qui fait que la voix est proprement humaine, on peut aller reculer encore un peu dans le temps et aller jusqu'en 1952, quand Lévi-Strauss, dans Race et Histoire, commençait à s'en prendre un peu à ce terme qui le mettait un peu en colère, le terme de barbare. Et pour lui, justement, il était important de se rappeler l'origine du mot barbare qui renvoie au son inarticulé du langage des oiseaux et des animaux en général. Et traiter l'autre de barbare, c'est le rejeter hors de l'humanité, mettre en avant son animalité parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Et cette inarticulation-là, elle est souvent péjorativement connotée, comme si elle n'était pas tout à fait humainement acceptable. Pourtant, la voix peut être inarticulée. Elle peut se jouer aussi comme d'un instrument de musique et gagner d'ailleurs par là en force de transmission d'une émotion. Elle peut gagner sa véritable portée sensible. C'est ce que l'on rencontre avec la voix des chanteuses, des chanteurs qui nous touchent justement. Et j'aimerais pour l'occasion, parce que j'aime beaucoup sa voix et son travail, et aussi parce qu'il sera sur la scène du Shabada le 24 octobre prochain, vous parler et vous faire écouter Bror Gunnar Jensen. Alors Bror Gunnar Jensen est suédois, c'est un one-man band ou homme orchestre, ce qui signifie qu'il joue lui-même de tous les instruments que l'on entend dans ses morceaux. Son style est ancré dans les racines du blues, mais il emprunte des chemins folk, aux accents parfois gothiques et aux influences diverses, telles que Tom Waits ou Tina Riven. Le premier extrait que nous allons écouter se trouve sur l'album And the Great Unknown, la partie 2 de l'album, sorti en 2017, et le morceau s'intitule War Tuba. On y entend le souffle de Bror Gunnar Jensen, si vous prêtez bien l'oreille. Il souffle littéralement dans le micro au début du morceau, d'une inspiration commune avec sa guitare, C'est ensuite comme un chuintement qui s'élève, et puis sa voix qui jaillit ensuite comme un feulement animal. Dans War Tuba, il s'inspire des deux premières guerres et évoque un certain mania américain des affaires, aujourd'hui à la tête des États-Unis, je vous laisse deviner. Il s'inspire des chansons des ouvriers des années 40. Et au début du morceau, donc, c'est la voix inarticulée, justement, de Bror Gunnar Jensen qui compose la musique. Soyez attentifs, car comme le dira le philosophe Emmanuel Levinas, le souffle, c'est un son muet qui est la matière première du langage.
I don't want your money, I want your fear. I don't want the respect, they should dread my name. I don't want your land, I want your life. Send the word that it is time to sound the road.
Là, on change d'ambiance, mais on va réécouter vraiment ce moment de souffle, comme tu nous le disais.
Mmh. want your money. I want your fear.
Alors, vous avez entendu, si vous avez prêté l'oreille, cet accord de la respiration et du souffle de Bram Gunnar Jensen avec sa guitare. Et on est là dans une musicalité, une puissance propre à la voix. Et pourtant, ce n'est pas tout. Et ce n'est pas seulement ce que peut faire la voix. On peut, au-delà de la puissance de sa musicalité, entendre aussi la voix comme un instrument de philosophie en soi. Car la philosophie est une science de l'oralité, où la voix, au-delà du discours qu'elle porte, souligne notre rapport au temps et à la mémoire. Platon, d'ailleurs, défend l'oralité face à l'écriture, dans le Phèdre, son dialogue consacré à l'amour et à l'art de l'enseignement oral. Enseignement oral que Platon a d'ailleurs reçu de son maître Socrate. L'écriture, elle, est muette et figée pour Platon. Il lui manque la pensée qui s'établit, elle, dans le dialogue. D'ailleurs, pas besoin de disposer du savoir ou de certitude pour bien parler, mais d'avoir le souci de la vérité plus que le souci de convaincre ou de persuader l'autre. Ainsi, la parole devient un art du dialogue. Dialogue qui est une ouverture à l'autre grâce à la voix. Et la musicalité de la voix lui permet justement de développer cette forme d'évasion hors de la coquille de soi. Et c'est ce que Lévinas, Emmanuel Lévinas, entend quand il dit que grâce aux différents timbres, à la musicalité de la voix, on peut croiser du son et du sens, du corps physique, et rencontrer la transcendance. C'est une ouverture à l'autre, car même quand on ne le voit pas, sa voix nous raconte son visage et nous fait reconnaître son humanité. Cette ouverture réciproque, dans le dialogue, est d'ailleurs, pour Lévinas, la condition de toute morale possible. Alors n'oublions pas nos visages, écoutons-nous, écoutons chanter, écoutons la radio, chantons, racontons-nous des histoires, écoutons des livres audio, allons au théâtre ou à des conférences, parlons-nous en chair, en os ou au téléphone, et parfois même pour ne rien dire, écoutons notre humanité. Et là, maintenant, qu'avez-vous envie? Quelle voix avez-vous envie d'entendre et d'écouter? Annie, une voix.
Ça me fait penser à plein de voix, des voix d'amis, des voix de famille, ouais, des proches un peu.
Des voix familières. Alors, je vous propose, pour ma part, de terminer en écoutant un deuxième extrait d'une chanson de Bram Gunnar Jensen, de son album sorti cette fois en 2014, Moan Snake Moan, qui signifie littéralement le gémissement du serpent. Dans ce morceau, on entend la voix de Bram Gunnar Jensen, plus tortueuse et complexe ici, proche du sifflement parfois. Mais ce qui frappe, c'est la force de l'évocation cinématographique de sa voix et de sa musique. Elle donne vraiment à voir des images et c'est toute l'Amérique des années 40 qui vibre et dont l'histoire se dévoile et se raconte en noir et blanc. Je vous retrouve dans 15 jours et nous parlerons de la philosophie et des femmes.
Soul, I'm back to make a thrill.